Bien, merci. J'ai finalement intitulé, puisque sur le programme qui vous a été remis, vous avez pu noter qu'il s'agissait d'un titre provisoire, j'ai finalement intitulé mon intervention « La didactique professionnelle entre formation et recherche ». Parce que, évidemment, je me suis posé la question qu'y avait-il d'intéressant à communiquer aux personnes qui sont ici réunies, qui par ailleurs connaissent certainement et d'un côté la recherche et de l'autre côté la formation, de ce que la didactique professionnelle pouvait avoir à en dire. Est-ce que la didactique professionnelle avait une spécificité de faire de la recherche? Est-ce que la didactique professionnelle proposait une spécificité pour faire de la formation? Est-ce que la didactique professionnelle était une activité de recherche, de formation? Comment ça se combinait? Et réfléchissant à cela, je me suis dit d'abord, et je vous propose donc, d'écarter deux perspectives ou deux significations relatives à ces relations. J'écarterai d'abord la recherche comme fondement de la formation, au sens où il y aurait d'un côté une activité de recherche qui produirait des connaissances, et de l'autre côté une activité de formation qui aurait pour charge d'abord de s'approprier les connaissances produites par la recherche, et d'autre part d'assurer leur communication, leur appropriation auprès des publics susceptibles d'en bénéficier. Si je l'écarte, ce n'est pas que ce soit inintéressant ou pas réaliste ou pas porteur de perspectives particulièrement dynamiques. Je crois que nous avons tous, dans notre vie professionnelle, en mémoire des rencontres, des débats, des échanges entre des formateurs et des chercheurs, échanges vifs parfois, échanges toniques, portés par des problématiques communes et puis par des désaccords profonds. Si je l'écarte, c'est parce qu'il ne me semble pas, mais je n'engage que moi disant cela, que la didactique professionnelle est, sur ce versant, quelque chose de très spécifique, de très nouveau, de très différent des autres approches à dire. Et donc, je pensais que ce n'était pas là que se situait l'essentiel de son apport. J'écarterai aussi la perspective de la recherche comme formation, ou comme on dit parfois, la formation par la recherche. Il est certain que faire de la recherche forme ceux qui l'effectuent. Sans doute, c'est là quelque chose de tout à fait reconnu dans différentes modalités, avec différentes acceptions. Vous devez sans doute là-dessus avoir beaucoup d'éléments. Je n'y reviendrai pas. Si je l'écarte, c'est pas parce que, même raison, ce serait pas intéressant ou ce ne serait pas pertinent, mais simplement parce qu'il me semble que la didactique professionnelle n'a pas un discours particulièrement original là-dessus, si ce n'est que d'éclairer certains aspects que vous verrez aisément dans la suite de mon propos. Aborder les relations entre recherche et formation pour la didactique professionnelle, je me suis donc résolu à le faire en deux temps. Un premier temps que j'intitulerai « biographique et socio-économique » et un second temps que j'intitulerai « théorique et programmatique ». Vous voyez bien l'intention de mon propos. Dans un premier temps, je voudrais attirer l'attention. Nous en sommes tous convaincus, mais il me semble que sur notre thème, ça a des conséquences importantes. Que la recherche comme la formation sont des pratiques et qu'elles sont conduites par des hommes et des femmes, dimension biographique et dimension contextuelle. Et dans le deuxième aspect, il me semble que ce que la didactique professionnelle a de spécifique à proposer dans cette relation entre recherche et formation, c'est d'une part un étayage théorique, un cadre conceptuel, et d'autre part, j'allais dire, une visée programmatique, c'est-à-dire fournir des ressources pour l'action. C'est comme ça que je vais vous proposer de structurer mon propos. Et je vais m'y engager en vous précisant auparavant, comme on dit parfois, ou comme on disait parfois, d'où est-ce que je parle, c'est-à-dire quel est mon lien avec l'objet de mon discours. Je crois que je peux dire que je connais bien les auteurs et les personnes dont je vais vous parler. Vous les connaissez sans doute aussi, parce que je les ai eus comme enseignants, parce qu'ils ont assuré ma formation, parce qu'ils ont assuré mon tutorat, on pourrait dire, dans les activités de recherche à bien des égards. J'avais constitué, comme le disait Anne-Marie, bien avant mon métier de formateur. Je suis arrivé dans la recherche fort tardivement et donc c'était déjà un formateur qui avait une pratique de formation qui a été amené à découvrir cet univers. Je rajouterai une deuxième chose, c'est que je l'ai découvert non pas en tant que didactique professionnel, et donc unique, je ne me situerai pas aujourd'hui parmi vous comme le porte-drapeau de cette approche, même si je suis tout prêt à répondre à toutes les questions, y compris vivement critiques, qui pourraient lui être adressées. Je l'ai découvert dans le cadre plus général des analyses de l'activité et dans un voisinage donc avec les approches de Yves Clos et de Clinique de l'activité, pour ceux qui peuvent les pratiquer ou les connaître, et d'autres approches qui sont plus autour des modalités, on pourrait dire, d'accès à l'expérience, je pense par exemple à Pierre Vermerche, et encore d'autres approches qui sont plutôt autour des relations entre les hommes et les objets, leur environnement, et je pense là aux travaux de Pierre Rabardel et de la théorie instrumentale. C'est donc dans ce monde-là que j'ai grandi. C'est de ce point de vue-là que je parle. Voilà pourquoi je ferai un point de vue, si vous voulez, qui est à la fois, je pense, pour partie intérieure de la didactique professionnelle, bien que je n'ai pas produit de travaux emblématiques dans ce domaine, et d'autre part un peu extérieure, parce que je la pense et je la sens et je la vis en relation avec ces autres approches. Pour résumer, Pierre Pastret a tendance, ça lui arrivait plusieurs fois, donc je reprends son mot, Pierre Pastret, un fondateur de la didactique professionnelle, je reviendrai, à me présenter en disant « Philippe Astier est un compagnon de route de la didactique professionnelle ». Je le reprends volontiers, je les ai accompagnés, j'ai bénéficié de leurs enseignements et je soutiens les perspectives qu'ils proposent. Premier point, donc, recherche et formation, point de vue biographique et socio-économique. Point de vue biographique, qui a avancé et comment s'est tissée cette notion de didactique professionnelle? J'évoquerai trois noms parce qu'ils me paraissent à la fois les plus emblématiques en termes de référence, ce que l'on trouve le plus aisément dans la communication, et parce qu'ils ont eu un rôle structurant sur les travaux des 15 dernières années. Le premier, évidemment, c'est Gérard Vergniaud. Gérard Vergniaud, que je suppose tout le monde connaît ici, dont je soulignerai seulement, dans ses caractéristiques biographiques, qu'il est chercheur, bien sûr, chercheur ayant pour objet les préoccupations didactiques et donc la dimension de formation avec pratique, évidemment, de cette relation de formation de formateurs et de relation avec les préoccupations des formateurs. Dans la trajectoire de Gérard Vergniaud, il y a bien sûr la didactique des mathématiques, il y a aussi, à un moment donné, la prise en compte des problèmes d'apprentissage des adultes. Et je crois que ça, c'est un deuxième aspect que je souligne parce que ça va influencer grandement la genèse et l'émergence de la notion de didactique professionnelle. À partir du moment où Gérard Vergniaud a été amené à se confronter à deux choses, d'une part les difficultés d'apprentissage des stagiaires, on pourrait dire, dans les stages qui étaient proposés dans les années 80, dans une grande étude qu'il a coordonnée avec Francis Gerbourget, et d'autre part, le défi qu'a été l'émergence de la notion de compétence et tous les discours qui circulaient autour de ce thème. Et je crois qu'il a eu la contribution qui visait à pouvoir fournir une définition, ou du moins un fondement conceptuel à la notion de compétence. Deuxième nom, Pierre Pastret, que j'évoquais tout à l'heure. Pierre Pastret qui introduit, semble-t-il, on cherche toujours des antécédents, mais qui introduit, semble-t-il, le vocable dans le sous-titre de sa thèse, didactique professionnelle. Et Pierre Pastret, dans sa trajectoire biographique, professeur, ensuite, on pourrait dire formateur de formateurs dans un CAFOC, ensuite chercheur, thèse avec Gérard Vergniaud, puis conduite de recherche, puis professeur au Conservatoire des Arts et Métiers, dans une chaire qui est reliée à la formation des adultes. Là encore, il me semble que dans la biographie des gens, on trouve croisée cette dimension de la recherche et de la formation, dans le cas de Pierre Pastret, de la formation puis de la recherche, mais l'on trouve croisée aussi la connaissance, on peut dire, du champ scolaire, puis des pratiques de formation scolaire, et enfin des pratiques de recherche. Le troisième nom que j'évoquerai, parce que je crois qu'il y a bien des raisons de les penser ensemble. C'est Patrick Mayen. Patrick Mayen, enseignant, formateur de formateurs au CAFOC, chercheur, thèse avec Gérard Vergniaud, et puis professeur à l'ENESAD, responsable donc de formation de formateurs. Et on retrouve la même trajectoire. Et on retrouve cette trajectoire, et c'est cela que je voulais simplement souligner, dans un très grand nombre de personnes qui se retrouvent sous l'appellation ou dans l'ère d'influence de la didactique professionnelle, notamment dans les thèses, parmi les thèses qui sont soutenues dans ce domaine-là. Il y a très peu, on pourrait dire, de jeunes étudiants fraîchement émoulus d'un bac plus 5 et puis entamant une thèse. Il y en a, notamment la thèse, par exemple, de Stéphanie Guibert-Sauré, qui est une étudiante qui fait de la sociologie et puis qui va ensuite faire une thèse de didactique professionnelle. En revanche, dans la plupart des cas, les gens qui vont s'y engager sont des formateurs. Et je crois que cet ancrage dans la formation est tout à fait essentiel pour comprendre le type de préoccupation et le type de lien que la didactique professionnelle va construire. Deuxième point, le contexte socio-économique. J'irai rapidement, d'abord parce que le temps m'est vraiment compté, et par ailleurs parce que je suppose que ces questions sont largement connues, vu que nous les avons à peu près tous vécues. Trois caractéristiques que je voudrais souligner du contexte socio-économique. La didactique professionnelle émerge, se construit dans les années 80, se communique et donc émerge dans les publications dans les fins des années 80 et les années 90. Trois choses. D'abord, dans le champ de la formation des adultes, les années 80 sont, je crois, marqués largement par la recherche, on pourrait dire, de ce que pourrait être, alors on l'appelait dans des termes différents, formation didactique, formation des adultes, andragogie, enfin, il y avait toute une recherche. Est-ce qu'il y aurait un modèle spécifique pour les adultes en formation, compte tenu de la spécificité du public auquel on s'adresse? Cette spécificité, elle a été cherchée, je crois, par deux voies principales. La première, on pourrait dire, au cœur de la situation éducative, de la situation de formation, par le recours à des méthodes différentes, notamment des méthodes de groupe, sous l'influence de la psychosociologie nord-américaine, d'autre part, par le recours aux méthodes actives, et il y a eu une importation assez large de ce qui se faisait, y compris dans le champ scolaire, pour la formation des adultes. Le deuxième aspect, qui est peut-être plus important pour ce qui nous concerne, c'est que la formation professionnelle a développé une technologie particulière pour construire les dispositifs de formation, pour définir les contenus, éventuellement pour définir les modalités d'apprentissage, et qu'elle a voulu le construire, j'allais dire, en alternative avec ce qui se faisait dans le champ scolaire, et ça a été le succès foudroyant dans ce domaine-là de l'ingénierie de formation. Avec trois produits emblématiques qui, depuis, ont essaimé bien au-delà de la formation des adultes, les objectifs, les référentiels et l'évaluation. Je crois que la didactique professionnelle va se fonder sur le constat de certaines difficultés, de certaines impasses de l'ingénierie de formation et va essayer de développer une autre voie de construction de la formation que ce qui était proposé par l'ingénierie. Deuxième aspect de contexte, la transformation considérable du travail et de son organisation, informatisation, automation, développement des services, avec des notions comme polyvalence, avec l'idée chez certains auteurs que le travail devient plus riche, plus complexe, cognitivement plus exigeant, et puis chez d'autres auteurs, au contraire, l'apparition d'une déqualification du travail, d'un nouveau taylorisme. Et donc, dans les deux cas, ce que je voudrais souligner, c'est la dévalorisation de l'expérience. Dévalorisation de l'expérience, dans un cas comme dans l'autre, les nouvelles technologies font que les anciens savoirs ne sont plus opérants. C'est toutes les vagues de licenciements des années 80-90 sur fond de « à nouvelles technologies, nouveaux opérateurs, à niveau de qualification plus élevé ». Et de l'autre côté, dans la même période, troisième caractéristique, le succès considérable de la notion de compétence, avec la critique implicite à la fois du mode scolaire de construction de savoir et à la fois de la notion de savoir, et la revalorisation de l'expérience, dont nous constatons aujourd'hui pleinement les effets, la VAE, les bilans de compétences et autres choses du même genre. Sur ce point, je crois que la didactique professionnelle va intervenir très fortement, notamment sur cette question de l'expérience, pour souligner l'importance dans l'expérience l'importance de l'expérience pour la construction non seulement des compétences, mais aussi pour la compréhension de ce qui fait l'essence de ce qu'il faut transmettre en formation, et d'autre part, pour souligner la dimension cognitive, et pas seulement, on pourrait dire, la dimension empirique vécue, la dimension cognitive de ce qui se construit dans cette expérience-là. Troisième aspect, parce qu'il est moins évident dans la littérature, toujours dans le contexte, les commandes. La didactique professionnelle s'est développée par des commandes d'études, beaucoup. Et ce que je voudrais souligner, c'est que ces commandes d'études étaient des commandes liées à la formation. Pierre Pastré a conduit deux études qui lui ont pris beaucoup de temps et sur lesquelles il a beaucoup produit. Une sur le réglage d'oscilloscope, l'autre sur la conduite de presse à injecter. On est là d'abord sur des préoccupations qui sont, il y a des carences sur le champ du travail, on les impute à des carences de compétences aux opérateurs, comment est-ce qu'on peut les comprendre pour savoir ce qu'on peut faire en formation. Pastré, le même, et Ramurcé ont conduit une longue étude à EDF sur les simulateurs. Si EDF avait un gros investissement sur les simulateurs, même chose, on leur demande, est-ce que vous pouvez nous aider à penser la contribution des simulateurs à la formation ? Sylvie Kans-Martin, qui a réalisé une étude exemplaire, parce qu'elle est une des premières à avoir fait la démarche de formation, la démarche en didactique professionnelle, depuis l'analyse du travail, j'allais dire, la plus orthodoxe possible qui soit à l'époque, mobilisant le schéma de Gérard Vergniaud à la situation des tailleurs de vignes, jusqu'à la construction de simulateurs pour pouvoir apprendre dans un temps bref, les compétences qui étaient requises, c'est une commande de la profession sur les problèmes de formation. Comment est-ce qu'on peut former rapidement un personnel qui va travailler peu de temps et donc à bas coût, toutes choses qui ne sont pas tout à fait étrangères à nos préoccupations, je suppose. La formation comme objet de recherche. Et je crois que ce qui est fondateur de la didactique professionnelle, c'est qu'elle va imposer un déplacement à ce moment-là sur des demandes de ce type. Pour organiser la formation dans ses aspects pédagogiques ou dans ses aspects, on pourrait dire, de dispositif, la didactique professionnelle répond, il faut comprendre le travail. Je crois que le déplacement fondateur est là, il est fondamental. C'est ce qui va distinguer la didactique professionnelle dans les années 80 et encore très largement aujourd'hui des théories sur la formation, sociologie, psychologie, tout ce qu'on veut, qui ont essayé de se centrer sur l'apprenant, le formateur, les interactions, enfin tout ce que vous connaissez sans doute fort bien, qui a distingué la didactique professionnelle des théories pédagogiques. Par exemple, à la même époque, d'autres auteurs, par exemple Philippe Mérieux a développé beaucoup de choses sur la théorie pédagogique. La didactique professionnelle s'en tient très largement à l'écart, et surtout qui va démarquer la didactique professionnelle de l'ingénierie de formation en se disant que ce n'est pas dans l'analyse des besoins et pas plus dans les représentations que l'environnement social peut avoir du travail à faire que se trouve le principe organisateur d'une formation. Le principe organisateur d'une formation se trouve dans la compréhension qu'on peut avoir du travail tel qu'il se fait dans les conditions ordinaires de production et par un contact direct avec ceux qui l'effectuent. Du coup, elle rejoint les autres formes d'analyse du travail. Et voilà comment Pierre Pastré, professeur de philosophie fréquentant la psychologie cognitive, prend le chemin de la rue Gay-Lussac pour aller rejoindre les gens qui, en psychologie du travail et en ergonomie, ont un patrimoine d'une centaine d'années sur comment comprendre le travail. Là-dedans, je pense, et j'en terminerai là-dessus, que l'influence pour la didactique professionnelle est très manifeste quand vous lisez les textes. La référence à Jacques Leplat est très importante. Pourquoi Jacques Leplat plutôt que d'autres, plutôt que Wissner ou plutôt que De Jour, ou etc. Jacques Leplat est sans doute d'abord celui qui articule très bien préoccupations d'analyse du travail et traditions psychologiques, notamment cognitives. Mais Jacques Leplat, vous le savez peut-être, ou sans doute, a été aussi un des personnages qui, pour avoir analysé le travail et avoir fait de l'analyse du travail sa spécialité, est un monsieur qui avait à l'origine de sa vie professionnelle, vous retrouvez la perspective biographique qui a guidé le propos dans cette première partie, s'est intéressé aux questions de formation, puisqu'il travaillait au service recherche de ce qui allait devenir l'AFPA par la suite, et que vous trouverez d'ailleurs ces textes qui ont été réédités dans un ouvrage qui s'appelle, et c'est symptomatique, Psychologie et formation. Voilà, je voulais juste planter le décor pour essayer de situer, vous voyez, comment au moment où la didactique professionnelle se constitue, et quand elle se développe, eh bien, les personnes qui le portent, les commandes qui la rendent possible, les défis, et notamment les discussions autour de la compétence ou de la taylorisation, détaylorisation ou retaylorisation du travail, elle va l'aborder à partir d'une question, j'allais dire, qui va servir de fil rouge. Quelle est la part de la mobilisation de l'intelligence dans l'action professionnelle? C'est ça qui va la caractériser. Et voilà pourquoi la didactique professionnelle, lorsqu'on pose une question de formation, a toujours, dans sa perspective, me semble-t-il, la dimension de formation et propose toujours dans sa démarche le détour par la compréhension du travail. Cette compréhension du travail, c'est une compréhension du travail du point de vue principalement cognitif et c'est ce que je me propose de développer dans la deuxième partie. Je ne sais pas si sur la première... On peut peut-être faire un petit temps d'échange. Michel, vous avez des questions?
Du point de vue de l'organisation du temps, on a jusqu'à quand? Parce que on a commencé beaucoup plus tard que prévu quand même.
Oui, mais on va garder les trois quarts d'heure de prévu de conférence, Philippe, la demi-heure de débat ensuite, et puis ensuite...
Bon, je propose que tu continues, et puis qu'on réserve nos questions sur tout à l'heure, sauf s'il y a un mouvement de protestation important. Non. Allons-y.
Bien. Deuxième temps. Dimension théorique et programmatique. Quand Pierre Pastret parle de la didactique professionnelle, il l'a dit souvent et il le dit encore, parfois avec un petit sourire amusé pour alléger le propos, que avec la didactique professionnelle, ce qui se joue, c'est la fondation d'une nouvelle discipline. Voyez bien, vous l'avez entendu aussi, bon, je suis heureux, nous sommes deux au moins. Vous voyez bien l'enjeu. Nous ne sommes pas là dans une perspective qui manquerait d'ambition ou d'originalité. Quelle est l'idée de départ? L'idée de départ chez Pastret lorsqu'il fait sa thèse, c'est, il le dit souvent, il le raconte et il l'a écrit, c'est d'essayer de montrer la fécondité d'une approche cognitive, particulièrement piagétienne, pour essayer de rendre compte des apprentissages professionnels. C'est ce qu'il va essayer de faire, c'est ce qu'il va essayer de faire dans ses travaux, c'est ce qu'il va essayer de faire dans ses publications, et donc, la conséquence, il lui faut construire un cadre qui puisse permettre de répondre à ce défi. Ce cadre, je le présenterai en deux aspects, la démarche et les concepts. La démarche. Je dirais presque que la didactique professionnelle n'a pas de démarche spécifique d'analyse du travail. Alors, je précise tout de suite, ça ne veut pas dire qu'elle fait n'importe quoi, bien entendu, mais ça veut dire qu'il n'y a pas, comme dans d'autres approches, si vous connaissez ou si vous fréquentez, par exemple, la clinique de l'activité avec des méthodes comme les autoconfrontations croisées ou les instructions au sosie, qui sont typiques de cette approche et qui sont solidaires du cadre théorique qu'elle mobilise. Ou si vous utilisez le cours d'action et la notion d'observatoire chez Jacques Thoreau. Ou si vous fréquentez Pierre Vermeer chez l'explicitation. Il y a comme ça des approches qui proposent des démarches spécifiques pour l'analyse de l'action professionnelle, parce que celle-ci présente un certain nombre de difficultés que l'on connaît bien par ailleurs, qui notamment sont la difficulté d'accéder à la conscience de ce qui est mobilisé dans l'action. À ma connaissance, alors, il n'y a pas de tel patrimoine dans la didactique professionnelle. Il n'y a pas de tel patrimoine dans la didactique professionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, me semble-t-il, de méthode standard, orthodoxe, estampillée, ayant fait l'objet de publications, de méthode qui se retrouve systématiquement dans tous les travaux, de méthode qui, en quelque sorte, garantissent par elle-même la qualité des données. Ce que l'on peut observer, c'est que la didactique professionnelle utilise fréquemment les méthodes en analyse du travail, qu'elle prend dans divers horizons, et qu'elle a une prédilection, on pourrait dire, à lire les publications qui sortent, pour une combinaison avec des observations d'un côté, observations directes ou enregistrement, et conduite d'entretien de l'autre, à propos de ces observations. Ce n'est pas vraiment de l'autoconfrontation, ce n'est pas vraiment de l'explicitation. Ce que l'on sait des collègues quand ils présentent leurs travaux, c'est que la connaissance des techniques d'explicitation chez Vermeersch et la connaissance de l'intérêt de pouvoir faire le lien avec l'action effective est toujours présent. Mais il ne me semble pas qu'il y ait en quelque sorte une one best way méthodologique pour les travaux de didactique professionnelle. La didactique professionnelle, dans sa genèse, je vous le disais, ça s'est construit dans cette communication avec la rencontre de la tradition des analyses du travail, et donc elle utilise ces méthodologies-là. En revanche, dans ce cadre méthodologique, elle poursuit un objet spécifique qui va la distinguer largement des autres approches. Ce qui intéresse la didactique professionnelle dans l'analyse du travail, c'est, on pourrait dire, l'action comme opération de pensée, ou, pour reprendre une formule de Gérard Vergniaud, au fond de l'action, la conceptualisation, ou, pour le dire autrement encore, la dynamique cognitive qui permet de rendre compte de la genèse et du développement des compétences chez les sujets. Donc, c'est une visée typiquement d'analyse cognitive, et c'est ça qui va être cherché. Il y a évidemment d'autres paramètres quand on va analyser le travail. La santé, l'environnement, etc., etc., le bonheur au travail, la souffrance au travail, toutes choses que vous connaissez sans doute de par les publications actuelles, ce n'est pas l'objet, et du coup, j'allais dire, ce n'est pas que ce n'est pas traité, mais que lorsque ça a une importance, c'est traité du point de vue de comment est-ce que le sujet s'en empare dans l'élaboration des structures cognitives qui sont les siennes pour traiter les situations. Voilà. En revanche, je crois qu'il y a un apport spécifique dans le cadre conceptuel, très nettement développé par la didactique professionnelle. Est-ce que c'est un apport de recherche ou est-ce que c'est un apport de formation ? C'est un apport produit par les chercheurs. Produit par les chercheurs, j'y insiste encore, dans des situations de recherche. Ce qui fait que les formateurs qui s'en emparent ensuite disent « Ah oui, mais c'est très sympathique l'histoire. Moi, j'ai écouté Pastré, j'ai été emballé, j'ai lu le bouquin, c'était formidable. Simplement, quand il est allé travailler sur les opérateurs en plasturgie, ça a duré 2 ans et demi. Moi, j'ai 4 jours pour construire mon projet de formation. Je ne peux pas faire ce qu'il a fait sur l'analyse cognitive de la tâche. Alors, comment je fais ?» Il y a quelque chose comme ça qui est tout à fait important, peut-être à souligner dans les difficultés qui sont rencontrés, c'est que la recherche a permis de développer des concepts et l'analyse du travail ne se mène dans des conditions qui sont, en didactique professionnelle, dans les publications qui sont disponibles, des conditions qui ne sont pas celles de l'intervention, qui sont plutôt celles de la recherche. Tout espoir est-il perdu ? Autrement dit, est-ce que la didactique professionnelle, finalement, sert, grosso modo, qu'à faire des thèses et des articles ? On ne pense pas, pour une bonne raison. C'est que ce patrimoine de techniques d'analyse du travail qui demande aux chercheurs des recherches de plusieurs mois, voire plusieurs années, est aussi mobilisé par une autre profession, les ergonomes, qui s'en servent pour des interventions de quelques jours. Et donc nous pouvons tout à fait penser que au fil des pratiques et du fil des développements des expériences, les collègues qui s'en chargent trouveront des modalités d'intervention qui parviendront à concilier les buts à trouver et d'autre part les conditions sociales qui sont nécessaires en termes de coûts un peu, mais surtout en termes de temps. Alors quel est le cadre conceptuel dans lequel la didactique professionnelle invite à analyser le travail ? Le cadre conceptuel, je vais le proposer, me semble-t-il, en deux catégories. Il me semble qu'il y a des concepts spécifiques. Alors, première contribution spécifique, Gérard Vergniaud avec le concept de CHEM. Je vous vois sourire, vous dites, spécifique à la didactique professionnelle, le concept de CHEM, il nous amuse. Non, parce que effectivement, Gérard Vergniaud s'est beaucoup attaché, notamment quand il s'agissait de définir ce qu'étaient les compétences, s'est beaucoup attaché à donner des définitions du CHEM qui permettent de rendre compte de la dimension cognitive au cœur de l'action. Et donc, je crois, et il y a encore aujourd'hui, disponible ces publications et ce cadre conceptuel-là, le CHEM selon Vergniaud, avec ses quatre composantes qui fonctionnent comme cadre d'analyse et comme cadre de recueil de données, comme cadre d'analyse, voire même, je l'ai vu, comme cadre organisateur de la formation. Ça, c'est le premier aspect. Pierre Pastré, lui, a développé deux autres, propositions conceptuelles. Une première qui date des années 90, avec la notion de concept pragmatique. Il va dire, dans l'activité d'un professionnel, quel qu'il soit, cette activité est organisée par des concepts. Ces concepts ne sont pas les concepts scientifiques que l'on peut transmettre qui sont transmis et mis en patrimoine par les disciplines. Ce ne sont pas non plus exactement les concepts professionnels qui sont transmis par les formations professionnelles. Ce sont des concepts qui sont construits dans l'action, construits par l'usage. Et donc, le but, c'est finalement, de la didactique professionnelle, dans les années 90, c'est arriver à identifier quelle est l'organisation conceptuelle qui permet de rendre compte d'une action professionnelle. Pierre Pastré va proposer, 10 ans plus tard, une deuxième version. Une deuxième version où il va distinguer ce qu'il appelle la structure conceptuelle d'une situation et modèle opératif. Alors, qu'est-ce qu'il essaye de faire en proposant ces deux entités ? Eh bien, il essaye de dire, dans une situation, toute situation, il y a un réseau d'exigences qui pèsent sur le travail, qui ne sont pas dépendantes de la situation et notamment de la subjectivité de celui qui l'effectue. Ce réseau d'exigences, qui existe indépendamment des personnes, il a une dimension cognitive, la structure conceptuelle d'une situation, c'est l'organisation du travail qui permet de traiter la situation à la hauteur des exigences de la tâche. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? On trouve des buts, on trouve des indicateurs, on trouve des systèmes de traitement de l'information pour donner du sens aux indicateurs, on trouve des principes d'action et on trouve un système de régulation. Pourquoi est-ce qu'il rajoute modèle opératif ? Parce que, évidemment, chaque sujet s'empare de la situation en fonction de ses compétences, de sa biographie, de ses capacités. Et donc, le modèle opératif ne correspond jamais exactement à la structure conceptuelle. Et il va avoir une proposition qui intéresse beaucoup les formateurs, qui est de dire, finalement, le sujet novice qui est confronté à une situation, élabore avec ses ressources, connaissances et expériences, un modèle opératif qui lui permet de la gérer, dans un premier temps, avec plus ou moins de succès, plus ou moins de bonheur, plus ou moins de certitude. Et progressivement, il va essayer de développer les éléments qui vont lui permettre de croître en maîtrise. Ce développement, c'est un développement qui, pour Pierre Pastré, est avant tout un développement de la construction conceptuelle. Et donc, ce développement fait en sorte que le modèle opératif se rapproche de la structure conceptuelle des situations. Et il dit, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un expert ? C'est quelqu'un qui s'est approprié, qui a construit un modèle opératif qui correspond à peu près aux exigences de la tâche, c'est-à-dire à la structure conceptuelle d'une situation. Si je prends un exemple plus empirique, concret, pour illustrer, et que l'on prend l'exemple de la conduite de la classe, on va dire, dans la conduite de la classe, il est intéressant, il est important d'identifier les exigences de la situation. Il faut ensuite pouvoir caractériser quels sont ce qu'il va appeler la structure conceptuelle, c'est-à-dire l'organisation conceptuelle qui permet à l'enseignant de répondre à ces exigences. Et ensuite, eh bien, les novices construisent un premier modèle opératif de gestion de la classe, et la construction de l'expérience, c'est le développement de ce modèle opératif pour pouvoir parvenir à une maîtrise progressive par un affinement des concepts et par un affinement des diagnostics, principalement. Ce patrimoine, il est sans doute important pour une raison qui nous préoccupe beaucoup ici, c'est qu'en formation, nous avons, me semble-t-il, un dilemme qui est, d'un côté, il y a des sujets. Et pour que la formation soit une formation effective, il faut qu'elle prenne en compte les sujets dans leur singularité, à leur niveau, là où ils en sont, etc., etc., etc. Mais d'un autre côté, il y a les exigences des situations. À trop se centrer sur les sujets et à définir la formation uniquement par rapport à la singularité des sujets, eh bien, on pourrait certes avoir des dispositifs d'évolution importants, mais rien ne garantirait in fine que les gens seraient capables de répondre aux exigences des situations. Et que le couple intellectuel que propose Pierre Pastré permet de penser ce qui est d'un côté développement, singularité des personnes et notamment position des novices, et de notre côté exigence des situations et en quelque sorte point de mire auquel il faut parvenir, sur lequel il faut outiller les gens ou auquel ils doivent parvenir par le développement de leur expérience. Ça, j'allais dire, c'est, me semble-t-il, l'outillage conceptuel spécifique. Les gens qui sont en didactique professionnelle piochent dans une de ces trois versions, et quand on pioche dans une de ces trois versions, il me semble que l'on est dans ces approches-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça dans l'appareil conceptuel de la didactique professionnelle. Il y a des choses qui viennent d'ailleurs que je vais juste évoquer pour que vous puissiez voir ce qui est en quelque sorte le voisinage dans lequel elle travaille. Vous trouverez chez beaucoup d'auteurs, notamment chez Mayen et chez Pastré, la notion de genèse qui est reliée là très directement à la théorie instrumentale de Rabardel. Les genèses, c'est l'aspect du développement qui permet de développer la fonction instrumentale dans la relation entre sujet et artefact. La notion d'étayage, qui va venir essentiellement, notamment chez Mayen, de Brunner. Toutes les notions autour du développement des concepts, tels qu'ils sont mis en œuvre par la psychologie soviétique, russe, et notamment par Vygotsky. Tous les auteurs font référence quasiment à Vygotsky. Il n'y a pas que, vous allez me dire, c'est vrai, mais là, c'est très central. Et puis, et c'est peut-être moins attendu, des références à la philosophie, notamment à la philosophie de Ricoeur, pour essayer de penser développement et histoire, et notamment dans l'expérience, comment le sujet passe de l'expérience qu'il fait, le moment de l'action, à l'expérience qu'il construit dans le fil du développement professionnel. Tout ça converge au service, me semble-t-il, d'une ambition théorique plusieurs fois affirmée. La didactique professionnelle veut contribuer à une théorie du développement. Je crois que ce qui est très central dans leurs propos, dans leur perspective, c'est de se dire il y a un développement cognitif des adultes, pour reprendre le titre d'un article de Gérard Vergniaud. Ce développement cognitif des adultes a sans doute été sous-estimé, il est largement opaque, et l'ambition de la didactique professionnelle est de pouvoir fournir des lumières, voire un cadre pour le penser. Alors, facette programmatique, si vous voulez, c'est-à-dire au sens de quelle modalité ou programme d'engagement la didactique professionnelle propose dès lors qu'elle pose une question qui articule la question des compétences des sujets et la question de dispositifs de formation. Et donc, comment cette théorie du développement peut y contribuer ? Alors, je crois que la didactique professionnelle, je vous le disais tout à l'heure, au fondement, propose un déplacement. C'est-à-dire que si on a une question de formation sérieuse, d'abord, elle invite à regarder du côté du travail. Elle invite à comprendre le travail tel qu'il se fait, et donc le travail tel qu'il est fait par ceux qui le font. Ensuite, je crois que la didactique professionnelle prend un deuxième pari qui la distingue de bien d'autres. En ces temps où la considération de l'expérience est jouie d'une importance très grande,
d'un regain.
Oui, parce que je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait. Mais aujourd'hui, c'est très très net, au point que l'apprentissage sur le tas, l'apprentissage par l'action, l'apprentissage en situation de travail est extrêmement valorisé. La didactique professionnelle fait le choix de souligner l'intérêt des situations spécifiques pour apprendre, des situations didactiques. C'est-à-dire que, bien sûr, elle va dire, il y a possibilité d'apprendre dans les situations de travail, et que tout ce qu'on vient de voir, ça se fait fort bien dans les situations de travail, l'expérience des professionnels est là pour en témoigner, ça se fait fort bien à grands coups pour les hommes, pour les femmes et pour les institutions, ça se fait fort bien aussi à grands coups pour parfois les choses, les clients, etc. Et donc elle va insister sur l'intérêt de la formation comme temps spécifique, comme espace spécifique pour essayer de construire et de développer ses compétences, j'allais dire, de meilleure façon que ne peuvent le faire les situations de travail. De meilleure façon, on pourrait le dire de plusieurs aspects, parce que dans certains cas, les situations de travail ne permettent pas de voir des choses qu'il est essentiel de voir et que néanmoins, on essaye toujours de ne jamais provoquer. Alors, ce qui est caractéristique, c'est dans tous les métiers où on forme des opérateurs à un niveau de compétence, il y a des situations de crise qu'on essaye dans le fonctionnement du travail d'éviter. Mais il faut que les opérateurs soient pertinents, compétents et efficaces pour les traiter si jamais elles adviennent. Les situations de travail ne permettent pas le développement de compétences dans ces situations-là. Il n'y a que les situations construites sur mesure qui le permettent. Deuxièmement, les situations de production ne permettent pas souvent de prendre le temps d'explorer la situation et de développer les apprentissages. Parce qu'il y a les exigences de production qui pèsent fortement sur la situation. Du coup, la didactique professionnelle et d'autres, mais la didactique professionnelle aura tendance à dire, si l'on travaille sur les situations de travail, si on veut qu'il y ait une formation en situation de travail et par situation de travail, il faut faire une analyse de la situation de travail telle qu'elle va permettre de, éventuellement, parfois, suspendre certaines exigences de production pour pouvoir développer certaines exigences d'appropriation, d'apprentissage, si vous voulez. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, la didactique professionnelle va dire il faut construire des situations de formation. Il y a de l'intérêt à construire des situations de formation. Dans tout ce que j'ai lu de didactique professionnelle, qui est, j'espère avoir été clair sur ce point, une invitation très nette à comprendre le travail pour construire la formation, il n'y a jamais l'idée que la formation en tant qu'espace spécifique ne serait pas intéressante ou ne serait pas pertinente. En revanche, ça pose une question tout à fait centrale. Situation de formation fort bien, mais que mettre dedans ? Que faut-il mettre dedans, dans les situations de formation, pour que ces situations de formation contribuent au développement des compétences, au développement des sujets, à ce développement cognitif des adultes ? C'est là que la didactique professionnelle, je pense, propose une contribution originale. Elle va dire... L'analyse cognitive de la situation de travail permet de définir ce qui doit être acquis en situation de formation et de construire des situations de formation qui permettent aux apprenants, par les problèmes qu'ils rencontrent, d'élaborer les concepts qui leur seront nécessaires en situation de travail. La didactique professionnelle, vous vous en doutez, entre-temps, à rencontrer la didactique des disciplines et particulièrement la didactique des mathématiques. Bien sûr, il y a l'influence de Vergniaud, il y a l'influence aussi de Rousseau, et ces gens-là, par la théorie des situations didactiques qu'ils ont, vont fournir à Pierre Pastret un modèle pour essayer de penser une transposition didactique qui n'est pas tout à fait celle de Chevalard, mais qui est de dire que faut-il que l'on conserve de la situation de travail dans la situation de formation pour que les compétences qui sont construites en situation de formation puissent être ensuite développées en situation de travail. C'est le débat entre faut-il une homologie ou pas entre l'un et l'autre, à quel degré, qu'est-ce qui doit se retrouver, trait de structure, trait de surface, enfin tout un tas de débats que Pierre Pastret et ses collègues ont développé dans un cas, mais un cas seulement, mais qui semble très abouti, c'est le cas de la simulation. Analyser le travail pour construire des simulateurs est la question. Dans le simulateur, que faut-il mettre ? Simulateur de situation ou ce qu'ils vont appeler des simulateurs de problèmes, c'est-à-dire construire les problèmes qui vont amener les apprenants à élaborer les compétences qui leur seront nécessaires. Ceci, j'y insisterai pas, sauf si vous voulez qu'on y revienne, a fait l'objet de publications nombreuses, mais notamment d'un ouvrage qui s'appelle « Apprendre par la simulation », où on retrouve à la fois cette réflexion et où on retrouve notamment des réflexions sur le rôle du formateur. Car jusqu'à présent, je n'ai rien dit du rôle du formateur. Est-ce à dire que la didactique professionnelle n'en disait rien ? Je dirais presque.
Pas beaucoup.
Alors, à une exception près, pas beaucoup. Pourquoi ? Mais parce que d'abord, il n'y a pas eu, aussi étonnant peut-être que ça puisse paraître, il n'y a pas eu d'études de didactique professionnelle sur la fonction de formateur. Enfin, pas eu. Il y a eu des tentations, etc. Mais en termes de communication, de ratification scientifique et de modélisation, fort peu. Fort peu. D'ailleurs, il y a beaucoup de travaux, par exemple, sur l'identité des formateurs, sur leur trajectoire, sur tout un tas de choses, mais ça, fort peu. Alors ensuite, parce que, sans doute, la didactique professionnelle, dans sa démarche, vous voyez, analyse le travail pour construire la situation de formation. Et qu'elle est très imprégnée de l'idée qu'il faut construire la situation plutôt qu'agir directement sur l'apprenant. Et donc, elle a apporté beaucoup d'attention à ce que l'on met dans la situation et un peu moins à une notion qui était très centrale chez Vygotsky, donc dans le patrimoine qui est le sien, qui est la notion de médiation. Je modère cela. Renan Samursé, que je vous ai évoqué tout à l'heure, dans l'ouvrage que je viens de mentionner maintenant, a tout un chapitre sur le rôle du formateur dans la simulation, et donc elle ouvre là une voie. Est-elle la seule ? Je crois que ce serait injuste de le dire. Un autre a travaillé un peu la question, c'est Patrick Mayen, qui l'a travaillé notamment dans l'alternance, où il a essayé de se demander quel est le rôle du formateur, c'est-à-dire dans la situation de formation, dans les situations d'alternance. Comment est-ce qu'il va articuler ? Comment est-ce qu'il va agir ? Comment est-ce qu'il va jouer ? Enfin, je crois qu'une troisième, je crois que j'en suis à la troisième contribution pour la formation, c'est pas la démarche, c'est un regard sur l'apprentissage. La didactique professionnelle, je crois, propose des perspectives, non seulement sur ce que c'est que l'activité professionnelle, comment est-ce qu'on peut l'analyser, la comprendre, etc. Et là, vous avez des exemples dans tous les métiers. Mais elle va proposer aussi des indications sur ce que c'est que l'apprentissage, ce que c'est qu'apprendre. Alors, il y a bien sûr tout ce que l'on trouve, j'allais dire, dans les théories, dans la mouvance des héritiers de Piaget. C'est peut-être pas ça que je vais souligner parce que c'est moins spécifique, sa contribution est la moins spécifique qu'autre chose. Pierre Pastret, le premier, beaucoup, et d'autres, Mayen, Patrick Hunegel, et d'autres encore, et notamment celle peut-être qui a produit le plus de travaux proches de vos préoccupations, je pense à Mme Pinatier sur le travail enseignant, eh bien, insiste beaucoup sur l'idée que on a trois occasions d'apprendre à propos de l'action. Vous vous souvenez que Vergniaud disait la conceptualisation au fond de l'action, c'est-à-dire qu'on se centrait sur l'action effective, le travail tel qu'il se fait. petit à petit, la didactique professionnelle va prendre de la distance avec ça et dire, il y a plusieurs occasions d'apprendre à partir de l'action. On apprend, bien sûr, en faisant. Simplement, le problème, c'est que la partie d'apprentissage n'est pas consciente, et donc il y a toutes les difficultés que l'on peut avoir pour capitaliser cela. Il y a une deuxième chose que Pierre Pastret va tirer de son coopération avec EDF sur les simulateurs, c'est l'importance des débriefings. Et il va en tirer une conclusion qu'il va développer fortement. On apprend aussi après l'action, par analyse de l'action. L'analyse de l'action étant une occasion de reconceptualisation, poursuivre la conceptualisation après la fin de l'action. Et troisième temps, on en prend également avant l'action, par la mentalisation de l'action, planification, programmation, préparation. D'où l'idée de la didactique professionnelle qui est non seulement nous pouvons jouer sur la construction de situations où les actions vont faire apprendre, mais également nous pouvons jouer sur les trois temporalités de l'apprentissage. Et c'est ce qui est comme ça, une pratique de formation qui est assez caractéristique de cette approche, bien que d'autres approches se trouvent proches, de cela. Et on peut penser, par exemple, à tout le courant d'analyse des pratiques, qui, vous allez trouver chez Pastret, analyse de l'action ou débriefing, et puis vous trouverez chez d'autres les analyses des pratiques. Ma conviction, pour connaître bien les premières et un peu les secondes, ma conviction est que l'on est dans une technique qui utilise le même ressort, mais qui est fondamentalement différente dans la façon de les construire et de les conduire. Et éventuellement, j'y reviendrai dans le débat si vous le souhaitez. Je vais conclure. Je vois l'œil noir que me jette Michel. Et donc, je vais conclure. D'ailleurs, ça tombe bien, j'étais arrivé à la fin de mon propos. Articuler la didactique professionnelle entre recherche et formation. Je crois que la dimension de recherche est présente dans la proposition, la perspective que mobilise la didactique professionnelle, d'abord parce que le travail est toujours à comprendre. Je crois que c'est ça. Première idée. Le travail, alors il y a une formule célèbre que pour ma part j'apprécie beaucoup, de Christophe Dejour qui dit « le travail est toujours une énigme ». Il y a une part énigmatique du travail qui tient à sa singularité, je n'y reviens pas, on y revient dans le débat si vous voulez, ce qui revient à dire que le travail est toujours à comprendre. Si j'y insiste, c'est parce que l'ingénierie de formation, et pas que l'ingénierie de formation, tout un tas de choses dans la formation, essaye de nous dire que le travail est déjà compris, c'est-à-dire qu'on sait déjà ce que c'est. Et de nous éviter cet effort de construction, de compréhension du travail dans la situation, en mettant à la place un certain nombre de choses, parmi lesquelles, bien entendu, nous avons tous présents à l'esprit, les référentiels, qui ont pour fonction de dire à la formation ce qu'est le travail. Pierre Pastret, de plus en plus, au fil des textes, dira très nettement que les référentiels ne peuvent pas fournir une base sérieuse pour une démarche de didactique professionnelle, car il décompose le travail, et que le travail en décomposition qu'il fournisse ne saurait rendre compte de la dynamique qui est au cœur de la compétence des opérateurs. Première chose. Deuxième chose, dans la didactique professionnelle entre recherche et formation, côté formation, deuxième remarque, l'analyse du travail selon la perspective de didactique professionnelle, et il y a beaucoup de travaux pour vous l'assurer, un excellent outil de formation. Quand des gens analysent leur activité avec les outils de la didactique professionnelle, ils développent la dimension conceptuelle, ils développent leurs compétences. Il y a là un vecteur que Patrick Mayen, par exemple, utilise beaucoup dans les démarches de VAE qu'il a mis en place au ministère de l'Agriculture. Il y a là un vecteur sans doute très prometteur, l'analyse du travail comme outil de formation. La didactique professionnelle n'en a pas le monopole. Yves Clos le pratique aussi, et d'autres le pratiquent encore dans d'autres approches. Mais il y a, toujours pareil, un édifice conceptuel et donc une façon de faire qui est spécifique à cette approche. Troisième aspect, je crois que les concepts que propose la didactique professionnelle sont des outils d'analyse. C'est-à-dire que ils sont des moyens pour le formateur pour pouvoir construire sa compréhension du travail auquel il prépare et pour pouvoir préparer les situations de formation qu'il va conduire et pour pouvoir repérer, diagnostiquer l'évolution des apprentissages des stagiaires qui sont sous sa responsabilité. Du coup, ça revient à dire que les contenus, en quelque sorte, sont toujours à construire. Et que, dans ce cas-là, les contenus sont à construire en relation avec la compréhension du travail. J'y insiste parce que l'on a souvent, parfois, tendance à faire un amalgame des deux. La didactique professionnelle ne dit pas tellement ce qu'il faut faire. Elle est fort peu prescriptive en matière pédagogique ou en matière didactique. Elle est beaucoup analytique, proposant des cadres pour étayer l'action des formateurs. Enfin, et je terminerai là-dessus, il me semble que, du point de vue de la didactique professionnelle, et particulièrement des auteurs dont je vous ai parlé, la différence entre recherche et formation est moins une question de statut. Il faudra avoir de bons chercheurs pour faire de la bonne formation. Ou alors il faudra avoir de bons formateurs pour qu'ils soient à la hauteur des acquis de la recherche. Qu'une histoire de fonction. La recherche, c'est une fonction. C'est une fonction qui fait partie, sans doute, des multiples fonctions que mobilisent les formateurs. Et la didactique professionnelle a certainement, mais elle n'a pas exploré, l'idée que, de même qu'il y a certains concepts qui ont permis d'être développés ces dernières années, les pratiques des formateurs sont aussi un moyen de développer les concepts d'une didactique professionnelle à venir. C'est le sens, je crois, des travaux qui sont en train de s'engager autour de l'activité des formateurs. Je crois que c'est aussi le sens de ce qu'on pourrait appeler une analyse des pratiques de formation qui permettrait de construire un cadre d'une didactique professionnelle qui soit transversale aux différents métiers. Quand je dis transversal aux différents métiers, ça ne veut pas dire en termes de concept, mais en termes d'outillage. Cela, c'est encore, j'ai l'impression, largement à construire. Il me semble que c'est maintenant de plus en plus dans les perspectives qui sont portées. Et c'est en cela que la didactique professionnelle, je crois, nourrit le projet de compléter l'ingénierie par une ingénierie des situations, mais aussi par une ingénierie des dispositifs. Ça, les formateurs vont sans doute le faire. Les premières expériences qui se font sur le terrain sont sans doute porteuses d'enseignements que nous n'avons pas encore, ni les chercheurs, ni ceux qui les font, codifiés, communiqués, du moins dans la connaissance que j'en ai. Voilà ce que je voulais développer avec vous sur ces rapports entre recherche et formation, et donc contribution de la didactique professionnelle. Si vous avez des questions ou si on peut avoir un échange, j'en serai ravi.